Loïc Tassé, bonjour.
Bonjour, Bernard.
Explique-nous pourquoi Macron a parlé d'une armée européenne. Pourquoi on est rendu là? Parce que c'est pas la première fois. Du temps de Kohl et Mitterrand, les années 80.
Tu as raison.
Il est question d'un embryon d'armée européenne, mais ça a vraiment pas fonctionné.
Tu as raison, c'est une vieille question. Ouais. Et c'est une question qui hante les relations entre l'Europe et les États-Unis.
Ouais.
Parce que le jour où il va y avoir une véritable armée européenne, à ce moment-là, il est possible que l'Europe ait plus besoin de l'OTAN.
Voilà.
C'est ça le fond du
et
problème.
Et donc, elle n'a plus besoin des États-Unis.
Et donc, plus besoin
donc,
des États-Unis.
Donc, c'est la solidarité transatlantique issue de la Deuxième Guerre qui
exactement.
Prend le bord.
Et
qui
de
prend
la
le bord.
Lutte de la guerre froide et de la lutte contre l'Union soviétique qui demeure. Mmh. Et les pays européens continuent à investir dans l'OTAN. Ils achètent beaucoup d'armements américains.
Puis, soyons honnêtes, on n'est pas rendu là, évidemment.
Non.
Mais le jour où tu as une armée européenne, ben on prend tous pour acquis qu'elle serait là au cas où il y aurait un conflit avec les Russes ou au cas où il y aurait un conflit avec l'Asie, mais ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas un jour y avoir un conflit entre l'Europe et les États-Unis.
Et c'est ça qui a été un petit peu la petite bombe, si tu me permets l'expression, que Macron a lancée juste avant la visite de Donald Trump ce week-end. Il a dit, écoutez, l'Europe doit pouvoir se protéger de la Chine, de la Russie, et même des États-Unis.
Il a dit ça. Hein?
Il a dit ça.
Et même des États-Unis. Hein?
Mais
ce sont ces mots, ça.
Mais c'est du réalisme politique.
Ah non, mais c'est quelque
oui.
chose. Hein?
Sauf que tu ne vas pas nécessairement le dire. Évidemment, Trump a tout de suite tweeté, c'est très insultant. Ils se sont rencontrés par la suite tous les deux, Trump et Macron. Et puis, bon, ça aurait été clarifié. Et les deux, nous dit-on, se seraient entendus pour augmenter les dépenses de l'Europe pour sa défense. Sauf que le problème demeure. Et le problème est que plus Trump va faire pression pour que les pays européens augmentent leurs dépenses et donc achètent de l'armement américain, moins ça va devenir économiquement intéressant et politiquement intéressant pour l'Europe de ne pas avoir sa propre armée. Plus ils vont penser que tant qu'à dépenser...
Dépensons pour notre industrie.
Pour notre industrie.
Nos industries nationales.
Exactement.
Donc d'assaut du côté des Français.
Exactement.
Puis bon.
Mais en ce moment, la structure de l'Europe ne permet pas vraiment d'avoir une armée, devrait-on tout de suite ajouter, parce qu'à 28, c'est impossible d'avoir des consensus rapides. Donc, ce serait peut-être une autre structure, dans le fond, à laquelle pense Macron. Peut-être plus une armée entre l'Allemagne...
Franco-allemande.
Franco-allemande. Peut-être avec l'Angleterre.
À laquelle
peut-être.
Pourraient se greffer d'autres pays.
Mm-hmm. C'est plus à ça.
En tout cas, il faut penser. Suivre ça. Il hein? faut suivre ça parce que, vraiment, c'est lourd de conséquences
Absolument.
Stratégiques à long terme.
Absolument.
Parlons un petit peu de la suite de ce long feuilleton qui n'en finit plus de finir de l'affaire Khashoggi.
Un roman savon, bien sûr. D'abord, il y a le président de la Turquie qui a pavané ce week-end. Parce que tu sais, il y avait 80 chefs d'État qui étaient invités à ces commémorations.
Oui, oui.
Dont évidemment, Erdogan.
Il a pavané des enregistrements.
Oui. Alors,
et le Canada a été le premier pays à les écouter, apparemment.
Non, pas exactement.
Non?
Il a remis des enregistrements. Il a dit, écoutez, moi, j'ai remis des enregistrements aux États-Unis, à la France, à l'Allemagne et à la Grande-Bretagne.
Ça, c'est les enregistrements de ce qui se passe à l'intérieur du consulat.
Oui, des enregistrements, a-t-il dit. Il n'a pas dit tous les enregistrements, il a dit j'ai remis des enregistrements. Alors, là-dessus, on a Justin Trudeau qui a dit oui, en effet, nos services de renseignement les ont entendus. Moi, je n'ai pas écouté ça. D'accord. Mais ce qui est très curieux, c'est que le ministre des Affaires étrangères de la France, Jean-Yves Le Drian, lui a dit moi, je n'ai pas connaissance de ces enregistrements-là. Et plus que ça, Erdogan est en train, je cite, de jouer un jeu politique particulier dans de telles circonstances.
Attends, Justin Trudeau aurait. Pas Justin Trudeau. Le Canada aurait écouté les enregistrements, mais la France n'en aurait pas eu connaissance.
Le Drian dit moi, je n'ai pas eu connaissance. Sens de ça. Et qui plus est, en fait, Erdogan est en train de jouer un jeu particulier. Donc, ou bien la France ne les a pas reçus, effectivement, et Erdogan ment, ou bien la France les a reçus, mais ça ne s'est pas rendu jusqu'au ministre des Affaires étrangères. Et là, il y a un problème de communication à l'intérieur du gouvernement. C'est un peu d'ailleurs ce que le représentant des communications de la présidence turque a déclaré. Il a dit, écoutez, il y a un problème. C'est insultant d'abord de se faire dire ça. Et puis, il y a un problème de communication à l'évidence à l'intérieur du gouvernement français en disant, écoutez, moi, je vous les ai envoyés.
En tout cas, chose certaine, Les dernières révélations sont à l'effet que M. Khashoggi a été dissous dans la cible.
Attends. Avant ça, on a un extrait de l'enregistrement.
Pardon?
On n'a pas entendu l'extrait, mais on nous s'est fait rapporter. Ces derniers moments, il se fait mettre un sac de plastique sur la tête et il dit « Arrêtez, j'étouffe, je suis claustrophobe ». C'est ça, semble-t-il, qu'on entend
c'est
sur les
dernières
enregistrements.
Paroles.
Et ça prend 7 minutes avant qu'il meure étouffé dans ce sac de plastique. Ça, c'est ce qui serait dans ces enregistrements, entre autres.
Son corps aurait été dissous,
comme tu dis,
dans l'acide. Ils auraient versé l'acide dans les égouts d'Istanbul.
Forcément, c'est beaucoup plus facile, tu sais. Tu vas dans les toilettes, tu vas verser ça, puis ça passe.
Écoute, c'est parce que ça, ce genre d'histoire-là, on voit ça dans les films de suspense, d'espions, d'espionnage.
C'est une vieille recette, Sherlock Holmes a ça. Tu sais, c'est des trucs, c'est un truc qui est connu. Mais attends, il y a d'autres choses qu'on a apprises aussi. Par exemple, le vice-directeur du renseignement de Mohamed Ben Salman.
Le prince.
Oui, on va l'appeler, si tu veux bien, MBS, ça serait plus facile. Ouais. Donc, son directeur, il y a un an, a été en réunion avec des hommes d'affaires étrangers qui lui proposaient des plans pour saboter l'Iran, pour saboter les communications en Iran, j'entends par là, pour faire des fausses nouvelles en Iran, pour monter l'opposition contre des dirigeants, pour diviser les dirigeants, ce genre de choses. Et puis, à un moment donné, ce vice-directeur l'a dit, au fait, est-ce que vous seriez capable d'éliminer des Iraniens
des dirigeants iraniens.
Des dirigeants iraniens. Et vraiment, l'homme d'affaires là-dessus a dit, écoutez, je sais pas. Il a parlé à ses avocats qui ont dit, non, touche pas à ça. Il a dit, non, on peut pas faire ça. Mais il se serait enquis de la manière de tuer des gens à l'étranger.
Ça, c'est un des principaux conseillers de Mohamed Ben Salman.
Et ça, c'est ce que rapporte le New York Times.
De procéder à des assassinats systématiques contre des dirigeants
Exactement.
Iraniens.
Et c'est ce que rapporte le New York Times. Mais regarde bien la façon dont on rapporte ça. On essaie de dire, oui, mais ce type, en fait, qui était donc le vice-directeur du renseignement, c'est parce qu'il voulait toujours épater
la galerie,
épater le prince.
Ah.
Et donc, ce serait de sa propre initiative.
Encore une fois,
qui aurait fait ça.
Parce que Khashoggi, ce serait de la propre initiative
pas le prince qui serait impliqué là-dedans.
Mais non, le prince n'a rien à voir là-dedans.
Et d'ailleurs, le prince est en train de se faire une nouvelle virginité à la Mecque.
Ah.
Et encore ça, c'est ce que rapportait ce matin le New York Times ce matin. Figure-toi que les imams ont vraiment traversé une ligne rouge et que maintenant, ils font plus comme d'habitude un prêche où ils parlent, tu sais, de la vertu, puis il faut vivre de manière vertueuse, etc. Non. Et puis ils terminaient toujours en disant prier pour la famille du roi d'Arabie Saoudite. Ça, c'était ce qu'on faisait depuis des décennies.
Ouais.
Non, ils se sont mis à dire maintenant dans leurs prêches, qui sont toujours approuvés par les autorités d'Arabie Saoudite, ils se sont mis à dire dans leurs prêches, figure-toi, que le prince est un grand soldat de Dieu et qu'il ne faut pas croire les médias qui essaient de détruire son œuvre. Et là, on rentre plein dans l'islam politique, tu as une instrumentalisation de la religion par l'Arabie Saoudite qui le faisait déjà beaucoup par la bande, mais là c'est tellement gros, c'est tellement direct que ça en devient à mon avis extrêmement gênant. Et ça gêne d'ailleurs beaucoup de gens dans la communauté musulmane qui disent qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ?
Parce qu'il faut se rappeler le pèlerinage de la Mecque,
c'est en Arabie Saoudite.
Ben oui,
l'Arabie Saoudite est protectrice des lieux saints.
Oui.
Tout ça va très bien.
Alors,
mais de là à dire aux imams qui sont à la Mecque, ils reçoivent des pèlerins du monde entier. De là à leur dire, vous allez faire des prêches ou vous allez protéger le prince d'Arabie Saoudite et dénoncer les médias étrangers, ben là, on est rendu ailleurs.
Absolument. Ouh, c'est intéressant. Loïc Tassé, merci.
C'est un plaisir.
On va s'arrêter. Paul Houde qui s'en vient pour nous parler des feux, des grands feux en Californie.